Ben, merci d'être venus aussi nombreux. Ça fait plaisir. Et en fait, j'ai absolument aucune idée de ce qui va être dit ce soir. C'est la bonne nouvelle. On va voir ce qui va sortir. J'ai pas entendu ce que vous avez dit.
Non, rien, c'est sûr.
On fait partie d'un.
Je voulais disparaître.
En fait, je vais commencer par une question. Qu'est-ce qui vous amène là ce soir? Je ne vais pas vous demander à tous de répondre, mais si...
La présence.
La présence?
La recherche.
La recherche. De quoi?
Ah. L'éveil.
Qu'est-ce que l'éveil?
C'est un piège.
Un piège? Pourquoi chercher un piège avec l'espoir de tomber dedans? C'est intéressant.
Je dis ça par rapport aux audios que j'ai écoutés, aux vidéos, aux audios.
Oui.
Qu'est-ce qu'on cherche vraiment? Qui c'est qui cherche? Par rapport au moi, est-ce qu'il existe un moi? La croyance en un moi, s'il en existe un ou pas? Donc la recherche, c'est par rapport à ce moi qui existerait, c'est lui qui cherche un état par rapport au refus de...
Mais alors s'il n'existe pas, c'est pas lui qui cherche.
Avant, on ne savait pas quoi.
Et pourtant, il y a recherche. Si on part de ce côté-là, ce qui nous amène dans des réunions comme ça, et j'étais de l'autre côté il n'y a pas si longtemps, il y a une recherche, on peut dire oui, il y a une recherche de paix, de bonheur, d'amour, peu importe le mot, d'unité, peu importe le mot qu'on va mettre, mais de quelque chose de constant, qui va nous remplir jusqu'à la fin de nos jours. Ça sous-entend que on ressent un manque, on ressent une incomplétude, on ressent une frustration, on ressent quelque chose d'inachevé, j'allais dire. Et en fait, ce que je vais vous proposer, c'est exactement de regarder cette idée ou cette sensation, cette impression de manque, d'incomplétude, d'inachèvement. Parce qu'en réalité, c'est bien ce qu'on ressent, c'est bien ce qu'on vit, c'est bien ce qu'on croit, mais c'est pas réel. Et si vous le faites là maintenant, chacun pour vous, peu importe les mots que vous allez prendre, prenez les vôtres, pas les miens, et regardez cette idée ou cette impression, cette sensation de manque, d'incomplétude, etc. Comment ça se manifeste dans le corps? Quelles sont les sensations physiques pures? Les sensations physiques pures, c'est tension, pression, chaleur, froid, piqûre, torsion, enfin, c'est assez pauvre comme vocabulaire. Frémissement. C'est juste pour garder ces sensations-là. Il n'y a rien de terrible. Elles sont assez fines, ces sensations. Elles font pas mal. ne sont pas douloureuses. Elles sont finalement assez banales. Non ?
On développe des maladies, souvent.
Juste là maintenant. Ah. Juste là maintenant. Là maintenant. Ce qui vous a amené ici, il y a une recherche, il y a forcément quelque part un sentiment de manque, d'incomplétude. Là maintenant. Comment c'est physiquement ? Est-ce que c'est dramatique ? Ou est-ce qu'on peut vraiment rester avec sans problème ? Est-ce qu'on peut les ressentir ? Il ne se passe rien de bien dramatique.
Il y a une inquiétude, peut-être.
Inquiétude n'est pas une sensation physique. Sensation physique, c'est vraiment frémissement, tension, sensation de pression, de poids, des choses très simples. Inquiétude, c'est déjà une interprétation de plein de choses.
Tant qu'on est au niveau du corps, c'est très bien. On sent une plénitude, enfin, on sent une plénitude.
C'est ça. C'est-à-dire que les sensations physiques liées à l'impression de manque ne sont pas dramatiques. Et si on reste avec elles, elles ne sont même pas désagréables. Il y a des sensations, ici et là, une tension, quelque part. Alors, qu'est-ce qui fait que cette impression de manque, d'incomplétude, nous fait chercher, et parfois avec force, puisque ce n'est pas les sensations physiques. Si c'était la pensée, l'idée. C'est-à-dire qu'à ces sensations physiques sont associées l'idée d'un manque, l'idée d'une incomplétude, l'idée de quelque chose à trouver, l'idée qu'il faut que je le trouve. Et toutes ces idées, toutes ces pensées sont crues et sont prises pour vraies. Imaginez que vous ne puissiez pas les penser, que vous ne puissiez pas avoir ces pensées, toutes ces idées de manque d'incomplétude. Il y a les tensions, il y a les sensations physiques, mais il n'y a pas l'idée d'incomplétude, il n'y a pas la pensée manque. Comment est la vie ? Toute simple, banale, ordinaire. Maintenant, imaginez que toutes ces pensées arrivent, mais qu'elles ne soient pas crues. Ah tiens, oui, une pensée de manque, puis elle passe, on ne s'y accroche pas. Même résultat. Donc il faut non seulement qu'il y ait une pensée, mais en plus qu'il y ait croyance en cette pensée, pour que démarre une recherche, pour que soit crue l'idée d'un manque. C'est-à-dire que je viens en quelque sorte à l'opposé de tout ce qu'on a tendance à croire. On a tendance à croire qu'il me manque quelque chose et il faut que je le trouve pour pouvoir être heureux, pour accéder au bonheur que je recherche. Et ça, c'est une croyance qu'on partage dans notre monde occidental et qui est fausse. En réalité, elle est fausse.
Excusez-moi, ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai pour tous les êtres humains. Vous faites une généralité.
Oui.
Je vous suis bien.
Oui.
D'accord.
J'ai pas pensé jusque-là, mais...
Il y a des gens qui sont très épanouis. Mais, semble être très
c'est encore autre chose, sembler être épanoui et être épanoui. Mais si les gens sont réellement épanouis, alors...
Je dis semble épanoui parce que je ne suis pas dans leur tête.
Oui, oui, bien sûr. D'accord. Mais évidemment, il y a des gens qui sont épanouis. Mais au moment où on vit, c'était la sensation d'être épanoui, évidemment qu'il n'y a pas de recherche. D'ailleurs, regardez pour vous-même, toutes les fois où vous êtes senti tranquille et heureux, après la naissance d'un enfant, en vous promenant en forêt, en étant scotché par la beauté d'un paysage, peu importe les circonstances. Est-ce qu'à ces moments-là, il y a même l'idée d'une recherche, l'idée qu'il manque quelque chose ? Tout ça n'est pas là. Il y a juste ce bonheur tranquille, enfin, ou ce qui apparaît là. Il n'y a pas de sensation de manque. Elle réapparaît après.
Mais c'est souvent lié à des événements extérieurs ou à l'utilisation de choses extérieures à nous-mêmes.
Par exemple.
Vous parlez d'un paysage, c'est quelque chose qu'on regarde dans la nuit, on est dans ce paysage. Si on se retrouve dans le métro, on aura à peu près la même sensation. La naissance d'un enfant, c'est une situation qui est...
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui ont la vertu de provoquer l'arrêt, un arrêt du mental, un arrêt de l'idéation. Et lors de ces événements, j'ai envie de dire, on est rendu à soi-même, à nous-mêmes. C'est-à-dire que ce qui a toujours été là en fond et que nous sommes en réalité, ce bonheur que l'on recherche, est ressenti. Alors, on a l'impression que c'est l'événement qui a créé ça. Et d'un certain côté, c'est vrai, parce que l'événement stoppe le mental. Mais en réalité, c'est l'arrêt du mental qui crée ça. C'est ce moment où le mental est arrêté d'un coup par un événement, par quelque chose qui peut être une surprise, ou de très fort, ou enfin peu importe. Il y a un arrêt du mental.
Il y a un arrêt du mental, ça veut dire qu'on ne réfléchit pas là.
Personne n'a jamais réfléchi, mais à ce moment-là, il n'y a pas de pensée. D'accord. Quand vous êtes scotché par la beauté d'un paysage, il n'y a même pas la pensée, c'est beau. Il y a un ressenti de la beauté. Mais il n'y a pas la pensée, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et si elle est bien, il ne faudrait pas trop s'y attarder. Et en tout cas, on ne va pas se demander, mais pourquoi je trouve ça beau? Sinon, c'est fini, on le sait bien. En réalité, il n'y a pas besoin de l'arrêt du mental pour que cette plénitude soit ressentie. Mais on n'a tellement pas l'habitude de l'autre côté qu'on ne le voit même pas. Pour moi, le mental peut complètement être là, il peut y avoir plein de pensées. Ça ne change rien à ce que je suis. Si vous voulez, ce qu'on appelle l'éveil, pour mettre des mots dessus, c'est un changement de perspective. D'une façon générale, dans le monde, on est collé, scotché à nos pensées, à nos croyances, à ce qu'on vit, à l'idée d'un moi, à ce corps, à mes émotions. On croit que ça, tout ça, c'est nous. Donc, on est collé comme ça. Et ce qui se passe... À certains moments, comme quand on est scotché par la beauté d'un paysage, on n'est plus collé. On n'a même pas l'idée d'avoir un corps. On n'a pas l'idée de l'âge que l'on a quand on est scotché par la beauté d'un paysage. Ou de ce qu'on devra faire demain. Tout ça disparaît. C'est-à-dire qu'on n'est plus collé à cet organisme corps mental. Et le changement de perspective qui s'effectue, c'est simplement ça. On cesse d'être collé à cet organisme corps mental. Il continue à fonctionner et les choses continuent à se passer. Je continue à prendre l'avion ou le train, ou à vous parler, ou à manger, etc. Mais il n'y a plus d'identification à l'organisme corps mental. Plus aussi solide qu'avant. Je ne dirais pas qu'elle a complètement disparu ici. Mais en tout cas, non, elle n'a pas complètement disparu. Mais c'est plus collé. C'est-à-dire que les événements, les sensations... Les perceptions, les émotions, les pensées, tout apparaît en moi, en tant que ce que je suis. Et ça n'arrive plus à moi. Ce n'est pas à moi que ça arrive. C'est ce changement de perspective qui s'effectue. Et ce changement de perspective, il est réalisé le jour où il est vu que... Enfin, il se réalise, il apparaît le jour où il est vu que les pensées n'ont pas besoin d'être crues. Et où il est vu que la pensée moi n'est qu'une pensée. qui ne revêt aucune réalité. Et quand je dis moi, je parle d'un individu, d'une entité, entre guillemets, séparée, qui se vivrait comme séparée, qui penserait par elle-même, qui agirait par elle-même, qui ferait des choix, qui poserait des choix par elle-même. En réalité, il n'y a pas de moi tel que défini là. Il n'y a pas un moi, il n'y a personne qui a un jour fait un choix. Il n'y a personne qui a un jour eu une pensée par lui-même. Il n'y a jamais personne qui a posé un acte par lui-même. Et ça, évidemment, on ne peut pas le croire sur parole, ça n'a aucun sens. C'est quelque chose qui, à un moment donné, va être réalisé.
Réalisé, ça veut dire être compris, être vécu,
être, moi je dirais être vu, parce que le regard est important. Pour moi en tout cas, mais ça, on pourrait changer le mot, c'est un insight en anglais, on parle, c'est une prise de conscience, c'est vu. C'est un petit peu comme... je ne saurais pas dire, mais l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple du Père Noël et du Père Fouettard, pour ceux qui connaissent le Père Fouettard. On croit au Père Noël, et ça a des conséquences sur notre vie. Tant qu'on croit au Père Noël, on attend le matin de Noël, on est ravi des cadeaux qu'on découvre, et on dit c'est le Père Noël qui me les a offerts. Et j'ai écrit au Père Noël, etc. Ça a des conséquences de croire au Père Noël. Une croyance a des conséquences. Et le jour où on cesse de croire au Père Noël, ben, y a un monde qui s'effondre quelque part. Pour plus de réalité. Le moi est une croyance. Enfin, la pensée moi, l'idée d'un moi est une croyance. Et un jour, il est réalisé, il est vu qu'en fait, il n'y en a pas, qu'il n'y en a jamais eu. Et qu'il n'y en a jamais eu. Ça veut dire qu'aucun moi n'a jamais rien fait. Non. Parce que le prouver, ce serait intellectuel. Ça peut pas... Ça ne changerait rien. Mais est-ce que vous pouvez me prouver l'existence d'un moi ? Est-ce que vous avez déjà vu un moi en chair et en os ? Je veux dire, un individu, quelqu'un qui pense. Est-ce que vous pensez vos pensées ou est-ce qu'elles apparaissent en vous ?
Vous m'aidez un petit peu, il y a un nom que je vous dis. Comment s'appelle l'homme qui avait créé le journal L'Express avec Serge Chavert ? Merci, François, François Giroux. Qui avait dit un jour, et ça m'avait surpris, qu'est-ce qui vous permettrait, comme ça, à bout de pourquoi, de dire que vous pouvez vivre heureux ? Pardon, je ne pose pas la question. Qu'est-ce qui vous permettrait de dire que vous pouvez vivre heureux, en règle générale ? Vous savez ce qu'elle a répondu ? Elle dit comme ça, à bout de pourquoi, je crois qu'il ne faut pas avoir le sentiment de culpabilité. Donc, fait rire, j'ai pas compris tout de suite. Et je ne dirais pas que c'est risible, parce qu'elle a fait un travail phénoménal. Mais je me suis dit, s'il n'y avait pas de sentiment de culpabilité, on dirait quelqu'un, on n'aurait pas de sentiment de culpabilité. Tout serait permis.
Non.
Et ce que je veux dire par le moi, c'est dans l'inconscient. Alors vous ne pouvez pas changer l'inconscient, je n'arrive pas à vous suivre. Hein. Mm-hmm. Ça existe.
Je comprends bien.
C'est basé, ça, ce que je suis en train de dire, c'est toute la psychiatrie. Je ne l'ai pas tellement étudié, je connais un peu les sciences humaines. Mais c'est toute la psychiatrie.
Non.
Les trois éléments du cerveau vont toujours vers l'agréable, y compris dans la folie. Voilà ce que je sais. Alors, j'ai du mal à vous suivre, là.
On ne va pas discuter au niveau psy, mais je ne crois pas non plus que ce soit franchement ce qui est dit en psy, ce que vous dites là. Ça va vers l'agréable d'un certain point de vue, mais pas dans l'absolu, sinon les gens ne seraient pas comme ils sont aujourd'hui. Mais c'est une autre histoire. Mais, en fait, je ne vous demande pas de me suivre.
Ça n'aurait aucun intérêt si je n'essaie pas de comprendre. Je suis là pour ça.
Alors, je vais vous demander de ne pas essayer de comprendre, mais de regarder. De regarder pour vous-même. Est-ce que vous pensez vos pensées ou est-ce qu'elles apparaissent en vous ? Est-ce que vous pensez vos pensées ou est-ce qu'elles apparaissent en vous ? Par exemple, tout ce que vous venez de dire, est-ce que vous l'avez pensé avant de le dire ou est-ce que c'est apparu que vous l'avez sorti ?
C'est pas apparu, c'est des choses que je connais. Donc j'ai pensé.
Vous les connaissez, donc vous les avez pensés. Est-ce que ce que vous connaissez, vous le pensez? Ou est-ce que vous l'avez lu, appris quelque part?
C'est absolu.
Pardon?
Je le pense, mais je ne dis pas que c'est absolu. Pour l'instant...
Alors, de quoi est fait ce moi qui pense?
Il me semble que je suis en désaccord avec vous.
Non, mais j'ai aucun problème avec ça. Tant mieux.
Mais je le dis pas méchamment.
Vous dites, mais je ne le prends pas méchamment.
Non, j'ai assisté à deux conférences
là. Oui, d'accord.
Sur le sommeil, c'était...
Sur le sommeil.
De médical fait par le docteur Fichot,
oui.
Qui a été absolument remarquable. Il est absolument remarquable. Et hier, à la Cité des Sciences, quelque chose d'autre. De
j'ai peur que ça n'a pas beaucoup de rapport avec ce dont on parle ce soir. Mais c'est. J'ai oublié ce que je voulais dire.
J'ai lu ce que le sujet de ce soir.
Est-ce que vous voyez.
Directement dans la relation.
Ok, mais pas de soucis. Est-ce que vous dites je le pense? Qu'est-ce que ce moi qui dit je? Oui, non, mais restez avec la question après, sinon c'est peu importe. De quoi serait fait ce moi qui dirait je? Ça, c'est, je vais vous laisser cette question. Par contre, je réponds à ce que vous disiez tout à l'heure. Réaliser l'absence de moi n'est sûrement pas un blanc-seing pour faire tout et n'importe quoi. Sûrement pas. Bien au contraire, à la limite. Parce qu'on retrouve une espèce de... Comment dire? On retrouve beaucoup plus ce que l'on est, qui par nature est amour pur et inconditionnel, par exemple. Mais amour, paix, joie, sérénité, etc. Donc, l'idée d'aller tuer quelqu'un, vraiment, ça n'aurait vraiment alors, absolument aucun sens. C'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est qu'en l'absence de l'idée d'un moi, on est beaucoup plus au service de tout ce qui apparaît. Enfin, c'est pas on, parce qu'il n'y a pas de on, mais ça sert, ça ne peut pas ne pas être au service. Et au contraire, l'idée d'un moi à protéger, à préserver, dont il faut subvenir aux besoins, etc., crée beaucoup de tensions et beaucoup de souffrances dans le monde et plein de choses de l'ordre du pouvoir, des guerres, etc., etc., du besoin de sécurité avec plein d'argent et des choses pas forcément très très propres. Mais là aussi, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je sais plus ce qu'on disait avant.
Est-ce qu'on pense les pensées ou est-ce qu'elles apparaissent dans la conscience?
Ben regardez pour vous-même. Regardez pour vous-même, est-ce que vous pensez vos pensées ou est-ce qu'elles apparaissent? Et pas seulement ce soir, mais regardez au fil des jours qui viennent. Et pareil pour les actes ou pareil pour les choix. Les choix, vous pouvez regarder aussi les choix passés. Vous avez fait des choix dans le passé, prenez n'importe lequel et regardez. Est-ce que vous avez réellement choisi à un moment donné ou est-ce qu'à un moment donné le choix s'est fait? Regardez.
Ça apparaît plutôt.
Ça apparaît.
Ça apparaît.
Ça apparaît.
Oui.
Comment peut-on ne pas croire ses pensées sans avoir une pensée qui dit « je ne crois pas mes pensées » ?
J'adore. Ça ne peut pas être. Déjà, ce que vous dites démarre sur l'idée de « on ». Comment peut-on? Mais qui serait ce « on » ? Moi, je dis qu'il n'y en a pas. Donc, ça ne peut pas. Et on est en plein paradoxe. C'est un paradoxe constant, moi, que je trouve merveilleux, qui m'amuse. Mais je comprends qu'il ne soit pas toujours amusant. Mais ça fait très longtemps qu'il m'amuse. Parce qu'on est pris au piège quelque part. À la fois on se dit mais faut que ça s'arrête et puis mais il n'y a pas de moi qui peut s'arrêter mais comment je fais je peux pas, il n'y a pas de moi qui peut faire quoi que ce soit. C'est un piège. Et dans ce piège et ce paradoxe, il y a quand même des gens qui viennent là et vous dire les pensées sont que des pensées, elles n'ont pas besoin d'être crues. Qui vous dire il n'y a pas de moi. Et ils viennent le dire. C'est incroyable quand même. Vous trouvez ça drôle maintenant aussi. Ben voilà. Et là, il commence à y avoir quelque chose qui commence à être réalisé. C'est qu'il n'y a pas besoin que ça change. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. À un moment donné, c'est réalisé. Ah mince, mais c'est juste un jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il sourit là. Et qu'est-ce qu'on a? Je n'ai pas dit, arrête de croire tes pensées. Hein. Et tout d'un coup, c'est plus léger. Et tout d'un coup, il n'y a rien de grave qui se passe. Ça arrive. Et comme c'est pas à moi, parce qu'il n'y a pas de moi, et comme juste ça arrive, qu'est-ce que ça peut faire que ce soit ça ou autre chose? C'est juste une expérience qui arrive. C'est juste, oh tiens, c'est ça qui arrive. Eh, mais c'est pas vécu. On ne peut pas le créer. On ne peut pas le croire sur parole.
Non, je sais, mais l'intelligence humaine, elle est douée de mémoire. La stratégie pour le futur, ça fait partie de notre intelligence. Même si la différence avec le chassé aussi. Je n'ai pas dit que c'était pas parfait, et que ça nous préoccupe, ça nous inquiète, mais ça fait partie de ce qu'on est constitutivement. Et qu'on redoute la mort, ça fait partie de ce qu'on est, c'est les sensibilités.
Non. Non.
De ce que l'on croit être.
Non.
Oui, je sais, on croit, mais quand on voit.
Ni la stratégie pour, ni la crainte de la mort ne sont ce que nous sommes en réalité. Ce sont des constructions, des conditionnements, mais tellement enracinés qu'on finit par croire que c'est nous. En tout cas, ici, il n'y a pas de stratégie pour aller quelque part, pour atteindre quelque chose. Et la peur de la mort, mon Dieu, ça fait longtemps qu'elle m'a quitté.
Vous avez de la chance.
Non! C'est il est à un moment donné il est vu que je suis pas ce corps. Qu'est-ce que ça peut faire ce qui lui arrive? C'est complètement secondaire. Je dirais. Mais c'est pareil, c'est pas quelque chose que vous pouvez croire. C'est pas intéressant de le croire. Laissez simplement la porte ouverte. Ah, ce serait donc possible. Ne fermez pas la porte. Parce que si vous dites ça, c'est pas possible, c'est des bêtises, bah c'est fini, quoi. Jamais ça va pouvoir vous arriver. Enfin, ça va être beaucoup plus compliqué à ce que ça arrive.
Alors, ce ment, vous vous mentez à vous-même, alors?
Je me mens à moi-même?
Oui, puisque vous dites, là, moi, bon, j'essaie de penser que ça m'est égal. Non.
Je le pense pas. Je vois simplement que ça ne m'affecte pas.
Mais ce qui nous différencie des animaux, c'est bien la pensée. Vous voulez l'enlever comment, la pensée?
Ben ça, je ne sais pas si c'est ce qui nous différencie des animaux. Je ne sais pas.
Les animaux, ils pensent. Mais ils pensent. Nous, on pense beaucoup plus qu'eux. C'est juste.
Je ne sais pas. Je suis incompétent pour parler des animaux.
Qu'est-ce que nous sommes en réalité, donc?
Ah, qu'est-ce que nous sommes en réalité?
Ouais.
Ça, c'est... Oui, j'aime beaucoup cette question. Regardez. Et là, je vais vous poser une question. Essayez d'arrêter d'être. Là, maintenant, tout de suite, un instant, essayez d'arrêter d'être. Est-ce que vous pouvez?
Ah
non, on ne peut pas.
Parce qu'on a le sang qui circule.
Ça, c'est associé, ça. Ça, c'est des pensées associées après coup. Vous ne pouvez pas arrêter d'être.
Je vois, je suis, donc je sais, j'existe.
C'est pas la même chose. Même pas. Même pas en tant qu'écoute, en tant que perception. N'allez pas si loin. Est-ce que vous pouvez arrêter d'être là maintenant?
Non.
Non. Et ça, vous le savez, vous le constatez. Qu'est-ce qui le constate? Qu'est-ce qui sait que vous ne pouvez pas arrêter d'être? C'est. Oui?
À partir du moment, c'est l'identification soit au corps, soit à qui on est et d'où on vient.
Oui, il y a une identification à l'organisme pour mental où il n'y a pas cette identification. Voilà. Il y a un changement de perspective. Il y a quelque chose comme ça qui se fait. Tout à fait.
Vous êtes fort si vous arrivez à faire ça.
Mais je... Je n'ai pas la prétention d'y arriver, ni à le faire moi, ni à vous le faire faire. Mais vous voyez que tout ce que je fais... Oui, et en même temps, c'est ce que vous êtes. Je ne suis pas différent de vous. Non, seulement par les croyances que l'on a. Ici, les croyances se sont effondrées pour la plupart. Je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais parce que je ne vais pas forcément tout voir. Puis je m'en fiche. Mais ici, beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances se sont effondrées, dont la croyance en un moi. Et ça, c'est révolutionnaire. Et en même temps, tout à fait ordinaire. Et là, ce n'est pas le cas. C'est la seule différence. C'est la seule différence. Les croyances que vous avez, enfin, auxquelles vous croyez, les pensées auxquelles vous croyez. La seule différence entre les gens qui sont assis de ce côté-ci et ceux qui sont à ce côté-ci, de ce côté-là, c'est des croyances dans les pensées. En particulier la pensée moi. C'est la seule différence. Parce que même la mort, c'est une pensée. La mort, c'est une pensée, c'est même un concept. Qu'est-ce qu'on sait de la mort? On n'en sait rien. Et là, maintenant, elle n'est pas là. Il faut une pensée de futur. Dans le futur, un jour, je mourrai. Et il faut y croire. Non pas que ça arrivera ou que ça n'arrivera pas. Mais pour qu'il y ait une inquiétude de la mort, il faut une pensée de futur et une pensée de mort et croire à tout ça. Sinon, il n'y a pas l'idée de la mort, il n'y a pas l'idée de futur, et il n'y a pas de crainte de la mort, c'est pas possible.
Si vous pouvez perdre des êtres chers, c'est la mort que vous voyez.
La mort, c'est une réalité.
Vous voyez...
Ah, c'est une réalité.
Oui, il y a une réalité existentielle d'un organisme qui meurt. Oui. Est-ce que cela vous sépare en réalité de l'être que ces gens sont, avec ou sans corps? Est-ce qu'ils disparaissent en vous?
Non.
Non. Comment vous expliquez ça?
C'est normal, il y a eu des liens affectifs, il y a eu des... Vous ne pouvez pas oublier une personne qui meurt.
Donc, s'ils ne disparaissent pas en vous, leur mort n'est que celle de l'organisme.
Sentiments qui sont liés à tout ça.
Mais les sentiments, ils demeurent. Quelqu'un vous aimez, vous continuez à l'aimer après.
Oui, mais il n'est plus là. La personne n'est plus là.
En tant qu'organisme. Oui, oui, ok. Mais même en tant qu'elle n'est plus là du tout. Pour qu'il y ait, là je vais un peu loin, mais pour qu'il y ait souffrance, manque, bon, il y a d'abord... Non, ça, c'est pas vrai. Il y a d'abord une période où, ben forcément, il y a une relation qui s'arrête si elle était tout le temps là. Effectivement, forcément, il y a un manque corporel physique qui est là. Ça, on peut pas... Je ne vais pas nier ça. Mais à un moment donné, avec les mois qui s'écoulent, il faut qu'il y ait une pensée de passé. Il faut qu'il y ait une pensée du bonheur passé pour qu'il y ait une souffrance. Si, sans la pensée, il n'y a pas la souffrance. Si on ne pense pas à la personne décédée, il n'y a pas la souffrance. Mais même quelqu'un qui part, ce n'est pas forcément quelqu'un qui meurt. Hein? C'est la même chose. Il faut qu'il y ait une pensée du passé. Il faut qu'il y ait une pensée que peut-être ça aurait pu être autrement. Il faut... Voyez-vous ce que je veux dire? C'est toute cette histoire, entre guillemets, prise pour la réalité, qui fait souffrir. Imaginez qu'il n'y ait pas cette histoire. Il n'y aurait pas de souffrance.
On ne pouvait pas l'effacer comme ça.
Non! Il n'y a même pas question de l'effacer. Il n'y a pas besoin de l'effacer. Ce que je souligne, c'est que c'est la croyance dans des pensées qui crée la souffrance et qui crée la recherche, qui crée le moi, l'idée d'un moi. Et que la différence entre vous et les gens qui sont de ce côté-ci, c'est la fin de ces croyances. C'est que ces croyances, ces pensées ne sont plus crues.
Vous n'y arrivez pas, on n'y arrive pas.
Non, vous n'y arrivez pas. Il n'y a pas un moi qui puisse y arriver, mais c'est constaté.
Mais à moins d'être obsédé, en supposant qu'on ne le soit pas, on ne pense pas tout le temps à quelqu'un qui a disparu. Il y a des moments où on y pense.
Exact.
Pas. Bon. Mais il y a un truc qui va nous rattraper.
Oui.
C'est la date anniversaire.
Et oui, ça, par exemple. À chaque fois. Oui.
La date de quelque chose.
Oui.
Qui nous rappelle, et ça c'est entretenu oui. année après année.
Et c'est entretenu.
Il y a un culte de la date anniversaire de
oui.
quelque chose.
Oui.
Alors que ce soit au niveau personnel ou au niveau collectif, Le temps est là pour nous rappeler quelque chose constamment.
Oui. Alors maintenant, puisque vous parlez de ça, regardez bien. Souvenez-vous d'une de ces dates anniversaires. Et souvenez-vous de la peine ressentie. Maintenant, je ne parle pas de la souffrance, je parle de la peine. De « Ah, il n'est plus là. Elle n'est plus là. » Vous voyez ce que je veux dire? Avec les larmes qui viennent aux yeux. La tristesse, éventuellement. Et si vous êtes juste avec cette tristesse, comment c'est? Est-ce que c'est souffrant? Juste la tristesse?
Oui, c'est souffrant.
Juste la tristesse.
Enfin, ici, c'est quelque chose qui se lève et qui disparaît.
C'est quelque chose qui se lève et qui disparaît, qui traverse.
Dans mon cas, c'est plus la mauvaise humeur ou la colère des choses. Ah oui. C'est plus ça, plus que la tristesse. Mais ça vient, puis ça s'en va.
Ça vient et ça s'en va. Voilà. C'est-à-dire que pour que ça reste une tristesse qui devienne une souffrance, il faut qu'il y ait une pensée associée et crue.
Tout à fait.
Sinon, il y a juste le souvenir, c'est le jour de l'anniversaire de sa mort. Et il y a de la tristesse et ça traverse. Et c'est juste là, et c'est doux. Parce qu'on a dans l'idée que la tristesse c'est mauvais, que je ne sais pas quoi, ou que la colère c'est mauvais. C'est pas vrai. Mais les pensées associées, il ne faudrait pas. Ça aurait dû être autrement. Ou j'aimerais que toutes ces pensées associées aient cru sur parole, c'est là qu'elles créent de la souffrance. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre cette tristesse de la perte, qui est douce et qui est en fait de l'amour, et de la souffrance qui est surajoutée liée à des pensées? Vous voyez? C'est ça la différence.
C'est difficile, c'est un exercice.
C'est un exercice, difficile. Oui, mais pas impossible. Et surtout, on nous, je veux dire, je ne peux pas dire on nous a appris, mais je ne sais pas comment le dire autrement, on a appris à mélanger tout ça, on a appris à amalgamer tout ça. Vous voyez?
Il faut beaucoup de courage pour arriver à faire ça.
Je ne sais pas, peut-être.
Une gymnastique assez difficile. Ça imposait beaucoup de choses. Non?
Je ne sais pas. Ça peut dépendre des gens, ça. Je ne sais pas du tout.
Mais ce n'est pas un effort en soi. C'est cette notion d'accueil, de regarder les pensées, ne plus les croire, ne plus croire aux commentaires, aux surcommentaires des pensées.
Mais attention, parce que je ne vais plus croire aux commentaires, je ne vais plus croire aux pensées, c'est encore une pensée qui est crue.
Oui.
Ce n'est pas intéressant.
Il faut bien qu'on puisse parler avec les mots.
Oui. C'est le regard qui se pose dessus et qui voit. Ah, mais c'est juste une pensée. Ah, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est vraie?
Mais il n'y a pas d'effort dans ce regard. Ce n'est pas un effort ou une attitude à adopter. Enfin, la croyance voudrait...
L'effort est plus à revenir sans cesse au regard. C'est un petit porter l'attention sur. Mais le regard, nous sommes regard. C'est-à-dire que quand je dis regarde, je ne parle pas à moi, parce qu'il n'y en a pas. C'est le regard qui parle au regard. C'est ce qui parle à ce qui est. En fait, c'est toujours ce qui est arrivé. Il n'est jamais rien arrivé d'autre que l'apparition de ce qui est, qui se manifeste de milliards de façons différentes.
Il est moins évident ce regard-là parce qu'il est totalement identifié, focalisé sur un objet de perception, une sensation corporelle interprétée, dont il n'y a pas...
Il y a des habitudes,
voilà,
des conditionnements, exact.
Oui. Donc ces habitudes-là peuvent même être... Enfin, elles sont regardées.
Oui.
C'est ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être qu'il y a une désidentification qui...
Oui.
Dans ton cas, ça a lâché.
Voilà.
Mais moi, j'observe que la force des habitudes, c'est quelque chose de tellement fort.
Oui.
J'observe même le commentaire.
Oui.
Et des fois, j'ai l'impression d'un combat à l'intérieur.
Le combat, constate-le lui aussi. Pose le regard dessus. Ne lutte pas contre le combat. Sois ami avec lui. Regarde le naître, regarde le vivre.
L'essoufflement.
Ouais, regarde l'essoufflement. Quoi que ce soit qui apparaisse, sois avec. Quand je dis regarde, ça veut dire écouter, ça veut dire sois avec, ça veut dire prends conscience. Enfin, ça peut varier le mot, changez le mot, n'hésitez pas. Oui. Vous ne pouvez pas l'accepter, mais c'est l'acquiescement, l'acceptation, l'accueil, sans personne pour le faire. Mais oui, vous pouvez prendre ce mot-là aussi. Monsieur ?
Oui, ça implique une forme de foi en un regard qui serait sans arrêt extérieur. C'est-à-dire ce retour au regard dont vous parlez.
Sans arrêt extérieur ?
C'est-à-dire qu'on revient sans arrêt au regard. Voilà, on revient au regard.
En fait, c'est, oui, on peut le formuler comme ça.
Vous avez un mois sans doute, vous dites que vous regardez de l'extérieur, lui n'ayant plus de regard de la vie qui s'expose devant lui.
En fait, il n'y a jamais eu de moi, donc lui non plus, il n'y en a pas. Non, tu n'en as pas, tu crois que tu en as. C'est pas la même chose. Ça, je vais me battre contre ça maintenant.
En fait, est-ce qu'il y a une forme de foi, justement, du
non-moi ?
Voilà, est-ce
que non, c'est une forme de foi ? Non, c'est vraiment une vision. C'est, à un moment donné, c'est vu, c'est perçu, c'est su, une fois pour toutes.
C'est une certitude.
Ah oui, il n'y a aucun doute. C'est toi, c'est « Ah tiens, il y a les mains là !» Personne n'en doute. Tu vois, c'est avec cette clarté-là. C'est vu. Tu le sais. Tu l'as vu. Tu t'es brûlé une fois, c'est pour la vie, tu sais quand ces choses, ça brûle. C'est pareil. Tu le sais. C'est su. Sans doute aucun. Le doute est mental.
Qu'est-ce qui nous rend différents, chacun, les uns des autres ?
La vie, c'est comme c'est. Même les arbres sont différents, même les brins d'herbe sont différents. Pardon ?
Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un être unique différent ?
Les gènes, les conditionnements, la personne. Enfin, c'est comme ça, c'est le foisonnement de la vie.
Moi je dirais les points de vue.
Peut-être je ne comprends pas la question, mais. Je ne parle pas de l'interprétation. L'interprétation c'est construit, c'est mental, c'est encore lié à des croyances.
Oui, mais c'est que ça qui. Une différence.
Ah non, à la naissance on est différent. Il y en a qui se nomment hommes et d'autres femmes déjà, par exemple. Il y a une différence certaine. Hein? Donc il y a une différence. Et puis il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des roux, etc. Il y a des différences. Il y a des yeux bleus, des yeux verts. Il y a des différences. Et au niveau de la personnalité aussi, il y a des différences. Il y en a qui vont à la montagne, d'autres la mer. C'est comme ça. Ça va demeurer. Pourquoi ça s'arrêterait d'ailleurs?
Parce qu'on est tellement identifié au concept, ce qui fait que peut-être ça nous différencie plus au niveau des idées, au niveau des croyances. On a l'impression que.
Vous savez, beaucoup, beaucoup de gens sur cette planète ont une même croyance. Il y a un moi. Autrefois, les gens pensaient que la Terre était plate. Ils avaient peur de tomber dans le trou en arrivant au bout de la Terre. On a même brûlé des gens parce qu'ils disaient qu'elle était ronde. Elle tournait quand même. Puis un jour, on a compris, on a réalisé, mais enfin, la réalisation que l'absence de moi n'est pas une compréhension, qu'en fait, elle était ronde. Et que donc, on ne pouvait pas tomber. Mais la Terre a continué de tourner. Ça n'a rien changé pour elle. Un jour, on réalise qu'en réalité, il n'y a jamais eu de moi. Mais ça ne change rien en réalité. Le monde continue de tourner comme avant.
S'il n'y a pas de moi, qu'est-ce qui fait la personne hein? C'est quoi la personne? On appelle la personne. Pourquoi on aurait envie de connaître une personne?
Ah, alors attention. Tout dépend de comment on définit les choses. Alors on va. Non, mais c'est une très bonne question, c'est important de savoir ça. Mais oui, bien sûr. Pour moi, la personne est en grande partie naît des gènes, si tu veux. On est tous différents, comme tu disais tout à l'heure. Pourquoi toutes ces différences? Ce sont des milliards de personnes. Avec des caractéristiques génétiques différentes. Et donc, des attirances différentes, qui sont peut-être aussi conditionnées dans l'enfance, plus ou moins. Donc on va dire que la personne, ça va être lié aux gènes et aux conditionnements. Une partie des conditionnements, je mettrais seulement. Et qui fait de chacun de nous quelqu'un d'absolument unique et de spécifique. Avec des capacités particulières, des attirances particulières. Tout le monde ne veut pas être boulanger, et heureusement, etc. Quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Si on se libère de ces conditionnements, on n'est plus différent.
Non, bien sûr que si. Même si tu te libères de tes conditionnements, tu auras toujours un corps d'homme.
Oui, mais à part ça, alors les hommes sont pareils.
Non, mais pourquoi? Mais regarde, même les animaux, ils ne sont pas tous pareils. Même les arbres sont différents.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne...
Les gènes. les gènes. Ça, c'est connu scientifiquement. Rien que déjà génétiquement, on dit différent.
Le regard est différent. Vous parliez de regard.
Oui, le regard est différent. Mais il est lié. Alors, je ne sais pas à quoi il est lié. Alors, je ne sais pas, on va dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnalités différentes, très spécifiques, qui apprécient différentes choses, qui vivent différemment, qui ont d'autres attirances, d'autres préférences de métier, de choix de vie, etc. Il y en a qui aiment la ville, d'autres la campagne, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ça va rester, et ça, ça va être ce que je veux dire, la personne. D'accord? Et ça, ça va demeurer. Tant mieux. Et puis, il y a la croyance en l'idée moi, je. Quelque chose qui apparaît dans l'enfance, puisque les enfants à la naissance n'ont pas l'idée d'un moi, ils ne savent pas ce que c'est. Et puis ça apparaît. Puis on apprend aux enfants, mais fais pas ci, tu ne dois pas le faire, et fais attention à ce que tu fais, et ça c'est mal, et ça c'est bien. Et c'est comme ça que petit à petit se construit, je suis responsable, c'est moi qui ai fait, et c'est pas moi qui, etc. Et j'aurais dû, etc. Et à partir de là, de cette idée d'un moi cru, apparaissent plein d'autres comportements, toutes les stratégies pour, dont on parlait tout à l'heure, toutes les manœuvres de sécuritaires, tout ce qu'on peut construire, l'ego, que je vais appeler l'ego. Et donc je vais séparer la croyance en un moi de l'ego. Et de la personnalité. La personnalité demeure, la croyance en un moi et l'ego sont construits et peuvent s'effondrer à tout instant, en tout ou partie pour l'ego. L'ego étant une somme de stratégies, de croyances, de pensées, d'histoires personnelles, ça ne va pas forcément s'effondrer d'un coup.
Comment on fait par rapport à la souffrance physique? Parce que vous disiez tout à l'heure que se détacher de cette croyance qu'on est un corps, les pensées, les émotions. Mais quand le corps est souffrant, comment on fait?
Alors là, je distingue toujours la souffrance psycho-émotionnelle de la douleur que je définis physique. Ben, c'est simple, quand on a mal, on a mal. Mais la douleur, à partir du moment où elle n'est pas refusée, comme tout à l'heure on parlait de la tristesse, de la perte d'un être cher, si juste il y a la tristesse, il n'y a pas le refus, pas de pensée associée, il y a juste douleur, ça fait mal. Mais il n'y a pas de « il faudrait pas », il n'y a pas de « quand est-ce que ça va s'arrêter, mon Dieu, je vais en mourir ». Tout ça, ce sont des pensées qui peuvent apparaître, mais qui ne sont pas crues. Alors si elles ne sont pas crues, ben, elles n'ont aucun effet, il y a la douleur. Ah, ça fait mal. Première solution. Deuxième solution, ça fait rire. La douleur fait rire. Ça m'est arrivé plus d'une fois. D'avoir vraiment mal et en même temps de rire. D'être amusé par les sensations douloureuses. Parce que c'est étonnant, c'est merveilleux, c'est amusant, c'est « Oh mais qu'est-ce qui m'arrive ?»« Oh tiens, c'est marrant !» Ça peut aussi arriver. Ce qui signifie qu'il n'y a pas de pensée qui vienne critiquer le fait qu'il y a une douleur. Et qu'il n'y a pas d'identification au corps qui a mal. Il y a une douleur qui est ressentie. Ça apparaît en moi, c'est pas à moi que ça arrive. C'est pas construit, on ne peut pas rire sur commande comme ça. C'est pas une croyance.
Il y a un regard qui regarde les pensées, qui regarde les corps et comment tout évolue. Du coup, d'où viennent ces pensées et ces corps qui évoluent? Est-ce qu'on s'en fiche? Enfin, quand on est dans votre position, est-ce que ça paraît normal qu'il y ait des pensées qui viennent, comme ça paraît normal qu'il y ait des gens qui bougent?
Je dirais pas normal, c'est trop, ça arrive.
C'est de même nature? C'est-à-dire, on regarde oui. De même nature?
Ah oui, c'est « it's happening », c'est quelque chose qui apparaît. C'est quelque chose qui arrive. Ça arrive. Vous êtes venu là ce soir, c'est arrivé. On parle ce soir, ça arrive. Il y a des pensées qui naissent, ça arrive.
Parce qu'on a tendance à penser, par exemple, que la pensée qui nous vient provient de ce qu'on a vécu avant et de...
Oui, mais comme tu l'as très bien dit, on a tendance à le penser.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est une pensée.
En fait, les pensées sont...
Donc ça aussi, c'est une pensée. J'ai tendance à penser que je pense mes pensées. Oui, mais c'est juste une pensée qui n'a pas besoin d'être crue. Tu ne sais pas si elle est vraie.
Surtout, je ne sais pas si elle est universelle.
En plus, oui. C'est une pensée qui est apparue. Et simplement, il y a tendance à la croire. Parce que dans notre monde, on a tendance à croire, dans notre monde occidental, on a tendance à croire qu'on pense nos pensées. Mais c'est juste une tendance à croire ça. Et si tu regardes, tu verras qu'en fait, ben, les pensées, elles apparaissent. Tu ne les penses pas. Elles apparaissent. Comme les sensations physiques. Regardez votre corps là maintenant. Il y a 30 secondes, il y a 10 secondes, vous ne sentiez pas grand-chose du corps. Mais si je vous dis, regardez votre corps, sentez votre corps là maintenant. Vous allez voir, il y a plein de sensations physiques à gauche, à droite. Les fesses sur la chaise, mais pas seulement. Le dos, je ne sais pas, la tête qui bouge, ça peut gratter quelque part, etc. Il y a des sensations physiques. En permanence, tout plein. Ça arrive. Il n'y a personne qui les crée. Elles apparaissent. Et on s'en préoccupe pas. Le plus souvent, on s'en préoccupe pas. Tout d'un coup, on a un truc un peu particulier qui n'est pas normal, pas habituel. Hein, c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive là? On s'y intéresse. Les pensées, c'est pareil. Elles apparaissent à foison. Quand on regarde, mais il y en a mais des milliers tous les jours, mais des milliers de milliers. La plupart, on ne s'en soucie même pas. On ne les voit même pas. On n'en a même pas conscience.
Elles servent à rien.
Elles passent. Elles servent à rien. Je ne sais pas si elles servent à rien. C'est trop dire qu'elles servent à rien. À quoi servent les sensations? Je ne sais pas. C'est ce qui est. C'est ce qui apparaît.
Moi, j'ai la croyance que, qu'il y a besoin de penser, d'être dans la réflexion, pour travailler.
C'est ta croyance.
C'est une croyance. Parce qu'il n'y a pas besoin de penser à la respiration pour que ça se fasse.
Exactement.
Mais c'est une croyance tellement forte que ça, même le fait de le réaliser, ça n'arrête pas le mécanisme. Quoi.
Ça peut encore revenir, mais si à chaque fois tu regardes et tu te demandes « Mais est-ce qu'elle est vraie cette pensée? Est-ce que j'ai réellement besoin de croire ça? Qu'est-ce que ça crée dans ma vie? Est-ce que c'est des choses positives? Et est-ce que cette pensée, je peux mettre ma main à couper qu'elle est vraie ?» Généralement, non. Donc, tu n'es pas obligé de la croire. Le regard, il va jusque-là, tu vois. Vous voulez poser une question?
Ça fait penser à l'expérience du Bouddha, en fait. C'est-à-dire que quand il s'est assis parce que comprendre le secret de la souffrance,
ouais.
Qu'est-ce qu'il a vu? Il avait ses pensées. Dans ses pensées, il y avait la haine, il y avait le désir, il y avait la peur. Et il n'a compris que la cause de la souffrance était l'avidité. Et l'avidité, la peur du vide, qui crée le désir, le manque, ce qui crée le temps, ce qui crée tout.
La peur du vide qui crée tout le reste. Hein, intéressant ça, oui.
Et en fait, on peut le voir très nettement quand on se réveille le matin. Je ne sais pas, tout le monde a dû faire cette expérience. Pendant une seconde ou deux, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas où on est et on pense à rien.
Cependant, nous sommes et nous savons que nous sommes.
En fait, moi je vous en prie parce que vous avez peur de rien, vous êtes immortel.
Oh là là, je ne dirais pas que j'ai peur de rien et encore moi je suis immortel, le corps mourra, c'est sûr.
Non mais c'est ça qui te rend insouciant et serein, c'est parce que vous avez absolument plus peur de disparaître, puisque la notion de tout apparaître, mais tout n'apparaît pas, en fait,
Mais je ne dirais pas qu'il n'y aura jamais de peur ici. Je ne dis pas non plus que le Bouddha avait peur des fois. Parce que pour moi, c'est l'éveil, c'est pas une fin, c'est un commencement. C'est-à-dire qu'au moment où on réalise qu'il n'y a pas de moi, c'est pas la fin de tout, c'est le début de quelque chose. L'ego, il y a une partie de lui qui s'effondre, le reste, à mesure qu'il va être vu, il va s'effondrer. Et puis ça continue. C'est pas à la fin. Et moi, je suis loin d'être au bout, ça c'est clair. Et ici, il peut avoir de la peur. Ça apparaît, bien sûr. Mais la différence, c'est que ça n'en fait pas un drame. Le plus souvent, ça en rigole. Ah tiens, il y a de la peur. Mais c'est comme pour tout le reste. Pourquoi ça ne pourrait pas apparaître? Pourquoi il ne devrait pas y avoir de peur? Qui a dit qu'il ne devait pas y avoir de peur? Qui a dit qu'il ne devait pas y avoir de tristesse ou de colère ou de je ne sais pas quoi? Pourquoi? Ça n'a aucun rapport.
Parce que ce sont des émotions affectives, négatives et souffrantes.
Seulement si elles sont refusées, seulement si elles sont critiquées. Par contre, je ne mettrai pas la culpabilité dans l'eau, parce que dans la culpabilité, il y a forcément l'idée d'un moi qui a fait quelque chose de mal. Ça, il ne peut pas y avoir. La responsabilité non plus, d'ailleurs. Il peut y avoir apparition d'une idée de responsabilité, mais elle ne peut pas être crue. Parce que les idées peuvent continuer à apparaître. Toutes les idées, y compris celles qui peuvent faire peur. Elles peuvent être même crues à un moment donné. Mais sauf que ça ne tient pas à l'accroche. Enfin, ici, l'accroche ne tient pas parce que c'est vu que c'est faux, quoi. Dès que le regard se pose dessus, c'est vu que c'est faux, ça s'effondre. Oh, un grand amour un grand amour pour tout. Ah ouais. Parce que
sa vie.
Pardon ?
Sa vie.
C'est libre. Mais c'est ce que vous êtes. Ne faites pas une différence entre vous et moi. La différence, c'est les pensées crues. Il n'y a que ça.
Il y a certainement des mécanismes qui transforment la pensée en conviction. Et, par exemple,
je ne sais pas.
Justement, par exemple, l'enfant, quand il est tout petit, c'est l'insistance de l'entourage de sa mère, par exemple, qui fait qu'il finit par, par exemple, accepter que son image dans le miroir, c'est lui. Au début, l'enfant regarde, la mère insiste, c'est toi. Ou l'onou, par exemple.
Oui.
Alors, la mère doit insister pendant longtemps avant que l'enfant accepte que son corps s'appelle.
Il y a quand même le stade de la reconnaissance dans le miroir.
Je vais réfléchir à la question. Si vous voulez, je voudrais savoir par exemple, un autre mécanisme, l'imitation. On a tendance à adopter les pensées de quelqu'un qu'on valorise, ou la culture, l'environnement valorise. Donc, on adopte, on se rend par imitation.
Oui.
Et sans savoir, en ce moment, les pensées se transforment en conviction. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait peut-être faciliter la tâche en énumérant ou en trouvant tous ces mécanismes qui
Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire et je ne suis même pas certain qu'il y ait réellement un mécanisme. L'impression que j'ai, mais ça c'est à vous de regarder pour chacun de vous-même, c'est que on a la propension à croire que les pensées sont vraies.
Vous voulez dire que c'est inné ?
Je ne sais pas si c'est inné ou conditionné, c'est plutôt conditionné à mon avis. On a la propension de croire que les pensées sont vraies. Ce que je pense, c'est vrai. A priori. Si je me sens responsable de quelque chose, je pense que c'est vrai que réellement je suis responsable. Je ne regarde pas une seconde, est-ce que je suis vraiment responsable.
Mais pas toujours, parce qu'on peut douter aussi de ses pensées.
Oui, et le doute est aussi une pensée. Et alors on va croire dans le doute.
Bien sûr.
De fait, sans dire mais, ce doute c'est quoi ? On va se servir des pensées pour essayer d'infirmer ou de confirmer des pensées. Jamais on va poser le regard, enfin jamais j'exagère, mais on n'a pas la tendance à poser systématiquement le regard sur tout ce qui est de l'ordre de la pensée pour voir mais c'est vrai ou c'est pas vrai ? Qu'est-ce que j'en sais ?
Je pense qu'il y a quand même un mécanisme de survie qui agisse parce que...
Non.
Est-ce que par exemple... Comment se fait-il que, par exemple, la pensée que le feu brûle se transforme en conviction, c'est que vous prenez la main, et puis le mécanisme de survie vous rappelle que c'est une pensée.
Mais ça n'a rien à voir avec la pensée. Je me brûle. Vous pouvez expliquer 100 fois à un enfant, touche pas, c'est chaud, tant qu'il ne s'est pas brûlé une fois, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais il s'est brûlé une fois, après, c'est bon, il le sait pour toute sa vie.
Réflexe.
Mais la pensée, c'est chaud, ça ne veut même rien dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'il se brûle une fois, il faut qu'il en fasse l'expérience. Après, il le sait pour toute sa vie. Moi, je vois plutôt les choses sous cet angle-là. Et ce qui se passe pour nous, c'est que d'une façon générale, on a tendance à croire dans les pensées, aux pensées. On a tendance à se servir des pensées pour conforter, pour confirmer ou infirmer les autres pensées. Mais c'est juste un mécanisme, c'est juste des pensées. Et rien ne prouve que même celles qui servent à quoi infirmer ou confirmer les pensées précédentes sont vraies. C'est juste des pensées.
Par exemple, la capacité de survie de l'homme apparaît supérieure aux animaux, les dinosaures ils ont disparu, justement parce que cet outil pensé a été au service du mécanisme de survie.
Peut-être. pas la pensée discursive, la pensée fonctionnelle. Quel est-il 2 plus 2 égale 4, etc. Cette pensée-là, sûrement, aide. Et de toute façon, je ne suis pas en train de dire que les pensées, il n'en faut pas, ou je ne sais pas quoi. Ce serait vraiment. C'est pas ça. Les pensées, elles sont là, elles apparaissent.
Je voudrais voir si vous avez réfléchi à.
Pour moi, en tout cas, ce que j'appelle les pensées, ce que j'appellerais les pensées discursives, l'histoire personnelle, toutes ces pensées crues créent de la souffrance, et je n'ai pas du tout l'impression qu'elles aident à la survie. La survie, elle est automatique, entre guillemets. On a tous un instinct de survie.
La survie appartient au mental ou ça appartient
à l'organisme. L'organisme a un instinct de survie, qui existe aussi chez les animaux. Mais qu'on voit aussi, si un enfant veut traverser la rue et qu'il y a une voiture qui arrive, mais si ce n'est pas l'autre, on va le bloquer. On n'a pas besoin que ça passe par la pensée. Heureusement, ce serait trop lent. C'est un automatisme, c'est automatique. Les mécanismes de survie, ils sont en nous. On n'a pas besoin de croire en l'existence d'un moi pour mieux survivre. Je ne crois pas, je crois plutôt que c'est l'inverse. Au contraire, j'ai plutôt l'impression que la croyance en un moi est pour une grande part dans tout ce qui se passe de travers sur ce monde. Quoi.
Donc vous excluez absolument la pensée positive?
J'exclus la pensée positive?
Oui, j'appelle la pensée positive. Les gens n'existent pas en fait. Il n'y a pas de pensée positive, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de, on ne peut pas se créer soi-même. Et c'est quand même une pensée qui...
Pour moi, c'est un après-coup. Pour moi, nous sommes les valeurs que nous cherchons à développer. Ça ne sert à rien de chercher à les développer, nous sommes. Pour moi, nous sommes ce que moi je vis, ressens, ce qui se vit ici, c'est que je suis le bonheur même, je suis l'amour, je suis la joie, je suis la paix. Je ne vais pas aller développer l'amour ou la paix ou la joie, je le suis. Mais vous l'êtes aussi, tout le monde. C'est le réaliser qui est important. J'entends pas ce que vous dites.
Je ne comprends pas du tout. Pas du tout.
On a tendance à penser que nous devons développer des qualités positives, que nous devons nous améliorer. Qu'est-ce que vous appelez pensée positive dans ce cadre ? Non mais justement, donnez-moi un exemple concret parce que je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire.
Pour moi, c'est une évidence,
donc
ça je
mais donnez-moi un exemple de pensée positive.
Je vais réussir. Non, pas du tout. Maintenant, c'est
par rapport à l'âge que l'on a. Donnez-moi une pensée positive, concrète. Évidemment.
Donc du coup, on a aussi quelque chose de une pensée par rapport à...
Par rapport à...
Par rapport aux autres.
On a une pensée par rapport aux autres. Mais si les autres ne vivaient pas en moi, je ne serais pas là ce soir. Je viens de l'autre bout de la France. Je ne sais pas si ça répond à votre question. On a l'habitude de penser qu'on doit développer, enfin, qu'il serait bon que nous développions, enfin, qu'on doit développer les qualités, les valeurs essentielles de l'espèce humaine. L'amour, la joie, la paix, le partage, enfin, peu importe, l'unité, le don... En réalité, il est réalisé que nous sommes ce que nous cherchons. Et donc, il y a besoin de le développer, puisqu'on l'est. Et à partir du moment où il est réalisé que je suis l'amour, que je suis le don, que je suis la paix, que je suis la joie, il n'y a aucun sens d'aller le développer, je le suis. Et évidemment que ça ne peut pas ne pas s'exprimer puisque je le suis. C'est comme le soleil brille. Il ne peut pas ne pas briller.
On peut être aussi l'égoïsme.
Non.
On peut être tout ça aussi.
Non.
Ah ouais, dans le fait d'être
ça n'a aucun sens. Mais sur quoi est basé l'égoïsme? On le dit sur l'ego déjà. C'est-à-dire qu'il y a l'idée d'un moi qui est plus précieux que les autres et donc, auquel il faut faire attention parce qu'il risquerait de lui arriver malheur. Il y a des idées comme ça dans l'égoïsme. Toutes ces idées-là sont effondrées. Elles ne sont pas crues. Elles ne peuvent pas être crues.
Est-ce que ce n'est pas simplement le fait de cesser de juger, critiquer l'ego et tout? Parce qu'à partir de ce moment-là...
Oh non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça.
La projection.
Oui, oui. Tout à fait. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est d'abord l'effondrement de la croyance en la pensée moi.
Oui, mais c'est lorsqu'on perçoit l'autre en amour, automatiquement, on se voit en amour. Si on est en train de juger, de critiquer, on ne peut pas être en amour. Et on ne peut pas
être
en paix, on ne peut pas être dans la joie.
Bien sûr.
Si
mais...
on juge et on critique l'autre,
exact.
On se juge et on se critique.
Sauf qu'il n'y a personne qui juge et qui critique. Il y a une pensée de jugement, il y a une critique qui apparaît.
Donc je rejoins un peu ce que disait madame tout à l'heure, dans le sens où il est important qu'on soit vigilant.
Mais qui peut être vigilant?
Dans notre mental, à ne pas voir des pensées de critique et de jugement pour pouvoir être en amour.
Non, c'est trop d'efforts. C'est trop d'efforts.
Parce que ça se passe au niveau du ressenti à ce moment-là.
Non, mais parce que c'est penser qu'il y a quelqu'un qui peut contrôler ce qui se passe.
Le contrôle, il vient de ce qu'on ressent au niveau de notre corps. Notre corps nous parle, je veux dire. Au niveau des sensations que l'on a. À partir du moment où on a ces sensations-là, on sait qu'on n'est plus en amour et qu'on sait qu'on n'est plus en paix et on sait qu'on n'est plus en joie. Donc, il suffit simplement de s'en apercevoir, même à la limite.
Mais parce qu'il y a une critique qui est posée sur toute critique. C'est-à-dire que dans ce que tu décris, il y a une critique de tout jugement. Tout jugement est jugé.
Oui, parce que...
Stop ! C'est déjà un jugement.
Qui suis-je pour juger ?
À partir du moment où tu juges le jugement, tu es dans le jugement.
Mais oui, mais
ça se mord la queue, cette histoire.
Qui suis-je tout court ?
C'est mon moi qui juge.
Mais il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. C'est une idée.
Justement, ça me permet de me rappeler qu'il n'y a pas de moi.
Mais alors, tu ne peux pas dire qu'il y a un moi qui juge. Il y a un jugement qui apparaît.
Oui, ça,
et ce jugement, il y a une pensée de jugement qui vient juger tout jugement. Ça apparaît. Mais quand c'est vu...
Oui, c'est ça ce que je suis en train de dire. Quand c'est vu, c'est une question de mots, de langage. On n'a pas le même langage. Mais c'est exactement la même chose. À partir du moment où je m'en aperçois,
oui.
Donc je change de perception, tout simplement. Je change de regard, je peux changer de regard et me mettre en observation. Dire,
oui.
Non, il n'y a pas de moi, donc je regarde ce qui se passe, c'est tout. C'est... Et je reviens en amour automatiquement. C'est juste qu'on a pas c'est une question de langage.
Oui, j'essaie de transcrire le langage à mesure. Il y a quelque chose comme ça qui est possible si, en changeant les mots, effectivement.
C'est juste une
attention à ce que, simplement, dans ce que moi je dis, le regard, par sa magie propre, dénonce l'illusion, enfin, perçoit l'illusion, défait la croyance. Montre que ce n'est qu'une croyance. Il est vu que ce n'est qu'une croyance. Et donc, ça s'effondre de soi-même. C'est-à-dire qu'à aucun moment, le regard va vouloir quoi que ce soit. Et sûrement pas que les jugements s'arrêtent. Il y a un jugement qui apparaît, il y a un jugement qui apparaît. Il est vu. Ah tiens, il y a un jugement. Tiens. Ah, ça juge.
Il y a accueil total de tout ce qui...
Il y a accueil complet de ce qui arrive.
Mais dans ce cas-là, il n'y a même pas recherche d'une cause.
Non. Ça apparaît.
Tous ces pensées ou tous ces sentiments qui arrivent, en général, il y a une cause, ou plusieurs causes, mais il n'y a aucun intérêt à chercher la cause.
Aucun. Et je ne suis même pas certain qu'il y ait une cause, ça apparaît.
C'est enfin qu'on a fait un peu de...
Oui, au niveau psy, on t'a trouvé des causes, des relations de cause à effet et tout. Oui, oui, j'ai été psy pendant plus de 20 ans, c'est sûr. Mais aujourd'hui, je ne chercherai pas la cause. Ça me paraît totalement inutile et même illusoire. Parce que les causes vont s'en fonder généralement sur l'idée d'un moi à qui ça arrive. Dans toute la démarche psychothérapeutique, il y a l'idée d'un moi qui souffre et qu'il faut soigner.
Je suis d'accord.
Donc, il y a quelque chose de perverti à la base.
Mais il n'y a pas des empreintes au niveau, par exemple, corporel. Le corps exprime aussi des choses.
Bien sûr.
Quand on est dans la vie, des choses comme ça, il y a des empreintes de mémoire. Justement, ce regard qu'on a quand on est, se dire qu'il n'est pas loin, mais le corps, il est encore là quand même. Le corps, il est là, il est vivant. Il existe avec ses mémoires cellulaires, par exemple, en objet thérapeute, ou en remontant aux causes, est-ce qu'on arrive à les faire disparaître, ces mémoires?
Je ne remonte pas aux causes.
Non.
Je ne remonte plus aux causes. Je ne cherche pas
les
causes.
On accepte les choses telles qu'elles sont, enfin, pas lentement, mais
on accepte les choses telles qu'elles sont, c'est que les choses sont de fait accueillies, acceptées, ou pas. Et quand elles ne sont pas accueillies, acceptées, le fait que ce ne soit pas accueilli, accepté, est lui-même accueilli, accepté. Ah tiens, ça refuse. Ou ça refuse, eh ben, et alors? C'est pas un drame. C'est pas un drame.
T'es en train d'exprimer, on a le sens de l'appropriation, on pourrait avoir l'appropriation de sa souffrance. Là, t'es en train de dire que l'accueil est conditionnel, il n'y a plus l'appropriation, il y a une origine de la souffrance.
Exact, l'histoire s'effondre, l'histoire de moi s'effondre, il n'y a plus de moi.
Mais il n'y a même plus l'attachement d'avoir ce corps m'appartient.
Exact.
Mais ça tient avec l'histoire de la croyance. Il y a un moi ou il n'y a pas de moi.
Oui.
Donc, c'est pas réalisé, c'est impossible à vivre l'expérience.
Et surtout ne pas le faire par
parfum.
Voilà.
Mais sans.
Voilà.
Sans vraiment.
Et comment se fait-il que tu aies le parfum?
Ça fait 20 ans que je cherche.
Non. Regarde. Ça c'est une pensée. Les pensées, laissez-les passer. Comment se fait-il qu'on peut en avoir le parfum? Comment se fait-il qu'à certains moments, quand les gens qui sont de ce côté-là parlent, ça résonne? Ah oui.
C'est reconnu comme.
Comment ça se fait que c'est reconnu?
C'est un sens du vrai. Ça résonne vraiment comme quelque chose.
Comment ça se fait?
C'est la conscience qui se reconnaît dans ce qui est dit.
Donc c'est su.
Mais c'est limité.
Donc c'est déjà su en toi. Ce que je dis est déjà connu en toi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Il n'y a pas de moi, mais c'est de toi. Je me sens.
Je me vois, tu te dois, tiens, etc. Ce sont des facilités en langagière que je conseille de conserver. C'est pratique dans le langage courant. Mais ne détourne pas.
Non, c'est
parce qu'il m'a eu en plus. Moi, je suis tellement prêt à rigoler.
Non, ne détourne pas. Mais
regarde, c'est déjà connu en toi. Tu peux pas le dire, tu peux pas le nier là tout de suite. Appuie-toi là-dessus. Laisse-le vivre. Punaise, mais je sais ce que je suis en train de chercher, je le sais en moi ce que c'est. Il n'y a rien de nouveau. Moi je vais vous dire, quand ça s'est passé la réalisation, pendant des semaines, je me suis dit, mais mon Dieu, mais comment j'ai fait pour ne pas le voir plus tôt? Mais c'est tellement bête. Mais c'est bête comme chou. Ravana Maharshi disait, c'est tellement simple.
Bonsoir. Vous connaissez Stéphane Jordan?
J'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas connu personnellement.
Non, je ne sais pas comment vous l'avez pensé, c'est que...
Vous pouvez parler un peu plus fort, j'entends pas bien.
La personne que vous rencontrez dans une heure et demie, Laurent Flint, a lieu ici maintenant, le connaissait très bien, et ce que vous dites, et parce que votre corps est...
Ce que vous dites, ça va très bien.
C'est très similaire à...
Mais bien évidemment, j'ai relu depuis, j'ai quand même relu quelques écrits de gauche et de droite que j'avais lus autrefois, avant que ça arrive. Je lui ai dit, mon Dieu, mais tout est là. Ils l'ont répété en boucle, comme je le fais ce soir. Mais on a toujours répété la même chose, en boucle. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est amusant en même temps. C'est un vrai étonnement pour moi. Un vrai étonnement.
D'ailleurs, vous avez dit que vous n'étiez pas au bout. Donc, c'est-à-dire que vous croyez en un bout.
Non, c'est une expression. J'en sais rien. J'en sais rien. Ben, dans ce que je sais, moi, si tu veux, c'est je vais faire la distinction entre comprendre quelque chose, le voir et le réaliser. Compréhension, c'est à l'intellectuel. Je peux comprendre théoriquement que, ah oui, il n'y a pas de moi. Et c'est vrai que j'en ai jamais vu, donc peut-être c'est vrai, et puis bon, tu vois, je peux le comprendre. Je peux le voir. Tout d'un coup, c'est, ah mais si, c'est vrai, il n'y a pas de moi. Et puis hop, ça, tu vois, c'est un instant, c'est un moment, c'est quelques jours, et puis pof, ça se revoile. Et puis de nouveau, bah si, il y a encore un mois, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment je rame dans la vie tous les jours, par exemple, tu vois. Et puis il y a le réaliser. C'est terminé. Ça peut plus, la croyance en un moi ne peut plus revenir. Je touche du bois.
Et qu'est-ce qui...
Quelle belle croyance.
Oh, je rigole. Mais à un moment donné, c'est réalisé. Alors,
qui réalise?
Mais ce qui est.
Ça s'incarne bien dans
ce qui est. Mais qui croit? Ce qui est. Qui réalise? Ce qui est. Personne. Il n'y a personne. Il n'y a pas un moi qui peut réaliser ou ne pas réaliser. C'est réalisé. Comme les sensations sont ressenties, comme tout le reste arrive. Mais quel effort fais-tu pour voir? Et qui voit quand tu ouvres les yeux? Ça voit, parce que c'est dans la nature des yeux, avec le cerveau, tout ça, de voir. Il n'y a pas besoin d'un moi.
J'ai l'impression qu'on, quand même, il y a un risque de tomber dans une forme de nihilisme complètement impersonnel.
C'est un détachement.
Où? Finis la phrase, un nihilisme personnel ou...
C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de personnes quand même dans ce que...
Il y a des personnes, il y a des organismes qui fonctionnent, qui sont complètement séparés, qui se rencontrent, etc. Ça continue.
L'unité, c'est encore une croyance dans le non-moi, qu'il n'y a pas de moi. L'achat des deux.
Mais qu'est-ce que serait ce nihilisme impersonnel? Qu'est-ce qu'il y aurait d'insupportable dans ce nihilisme impersonnel?
Justement, l'absence de personne, c'est-à-dire l'absence de... Comme s'il y avait un corps dans lequel s'incarne une réalisation, donc c'est même pas vraiment quoi, et... Je ne sais pas, ça me paraît un petit peu abstrait.
Mais c'est ce qui a toujours été. C'est ce qui a toujours été, depuis toujours.
L'absence de le conditionnement.
Sans le penser.
L'absence d'attribution de ce qui se passe. C'est pas moi qui le pense, c'est pas moi qui le vis. C'est vécu, c'est ressenti, ça arrive. Je ne m'attribue pas les choses. Le Tao dit, le sage parle, mais il ne dit rien, quelque chose comme ça. Le sage agit, mais il ne fait rien. Je ne prétends pas être sage. Mais c'est ça l'idée. Les choses se passent sans personne pour les faire. Elles ne sont pas faites, ça arrive. En fait, ça a toujours été comme ça. La différence, c'est que là, c'est vu. J'ai jamais rien fait de ma vie, même quand je croyais qu'il y avait un moi, j'ai pas cru qu'il y avait un moi. Ça a cru qu'il y avait un moi. Mais il n'y a jamais eu personne pour le croire. Ça a cru, en réalité.
Qu'est-ce qui vous a permis, en fait, enfin, est-ce que c'est une pratique intensive de la méditation?
Non.
Enfin, qu'est-ce qui a permis de même?
Il n'y a pas de loi par rapport à ça. Oui, il y a chaque fois apparemment un élément déclencheur chez tout le monde. Mais il n'y a pas de loi par rapport à ça. Chacun sa route, chacun son chemin, comme disait la chanson. Je ne sais pas si c'est très intéressant de parler de tout ça, en fait. Moi, peut-être ce que je vais souligner, c'est que, pour moi, ce qui s'est passé chez moi, c'est qu'il avait été vu déjà des dizaines de fois qu'il n'y avait pas de moi. Mais vu. Mais je croyais qu'avec l'éveil, il n'y avait plus de problème. C'était le nirvana à perpétuité, et il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus de tristesse, il n'y avait plus de jugement, il n'y avait plus, ouais, tous ces trucs-là. Il n'y avait plus d'ego non plus, quoi. Tout de suite comme ça, que ça arrivait d'un coup. Et c'était ces croyances parallèles qui ont maintenu la croyance en un moi pendant peut-être 10 ans. Et c'est une personne qui m'a permis de réaliser, mais Gérard, c'est juste des pensées. Oh, c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai qu'il n'y ait plus de moi après, d'ego après la réalisation, j'en sais rien. Mais penser qu'il n'y en a plus, c'est une pensée. Et de voir que c'est une pensée et que rien prouve qu'elle est vraie, après elle est tombée, et qu'est-ce qui est resté ? C'est, punaise, mais quel imbécile ! Mais comment j'ai fait pour croire ça ? Et juste, ben oui, c'est vrai, il n'y a pas de moi, je le sais, je le vois tout le temps qu'il n'y en a pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de tristesse, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de colère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de prise de tête, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de jugement, ça peut encore apparaître. Oh, ben quelle surprise ! Et de fait, à partir du moment où ça a été accepté tel que c'était, ce qui s'est passé, c'est que tous les travers qu'on peut tous avoir, ou les histoires qui se racontent, qu'on peut tous avoir, ont été vues très rapidement comme étant fallacieuses, comme étant erronées, comme étant des histoires, comme étant sans consistance, comme étant illusoires. Et alors, pouf, elles s'effondrent, les unes après les autres. Mais c'est un après-coup. Et moi, je croyais que ça arrivait en même temps. C'est bête. Et j'avais pas vu que c'était une croyance. Parce qu'on lit les bouquins de ceux qui sont éveillés, ils sont tellement heureux, ils sont du nirvana, on dit bah, c'est ça alors. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. C'est un après-coup. C'est comme ça, mais après-coup. Pas au moment où. Avis à tous ceux qui ont déjà vu qu'il n'y avait pas de moi. Si c'est pas réalisé, le plus souvent c'est qu'il y a des croyances associées.
Après sortir ses émotions pour se libérer, justement, même ici,
non.
Malgré que ça ne se fait pas de parler.
C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire.
Les gens sont coincés partout.
Non, j'ai aucun problème avec sortir les émotions. J'ai aidé des dizaines et centaines de personnes à sortir les leurs, et j'ai sorti les miennes sans problème. Je dis que c'est pas nécessaire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Pour moi, je vais toujours revenir au regard. Il y a une émotion qui apparaît, qu'elle sorte ou qu'elle ne sorte pas n'est pas très important. L'important est que ce soit vu. Qu'est-ce qui se passe dans le corps ? Quelles sont les pensées associées ? Comment ça se passe ? Le regard. Être avec ce qui apparaît. Être avec cette émotion. Et quand je dis être avec, c'est l'exemple que je prends beaucoup en ce moment, c'est comme l'enlacer, comme on enlace un enfant dans ses bras. Avec amour, délicatesse, tendresse, sourire. Complète implication. On est complètement là. Zéro distance. Et pas d'identification. Simultanément. Vous voyez ce que je veux dire ? Et faire pareil avec tout ce qui apparaît. Les pensées, les jugements, les émotions, tout.
Mais quand même, il me semble que les mettre en action avec les autres directement par le dialogue, ça va jusqu'au bout.
Eh bien, alors allez-y, faites-le.
Tu voulais prouver bien, par exemple, moi, oui. Moi j'étais toujours prisonnière et totalement esclave, totalement dans le rêve par rapport à ces émotions refoulées. Mm-hmm. Et quand je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais honte, là, je pourrais même, quand je regarde les gens, comment ils me regardent, je me dis, mais attends, mais comment ils me regardent ? Ils me jugent, ils ne m'aiment pas. Et moi, je m'en fous maintenant. C'est plus mon problème.
Bah, c'est super.
Mais ça, j'ai plus le. Et je dis qu'il faut vivre.
Ouais, ouais. Mais attention, là, on parle d'autre chose. Tu parlais d'émotions refoulées. Moi, j'ai pas dit qu'il fallait refouler les émotions. Et j'ai pas dit non plus qu'il fallait pas exprimer les émotions. Et si toi, ta voix là maintenant, c'est d'exprimer tes émotions, mais vas-y. Mais n'en fais pas une obligation pour tout le monde. C'est juste que toi là maintenant, dans ce moment de ta vie, tu as besoin de sortir ça. Vas-y, mais fais-le.
Pour voir les gens à l'école, au travail, c'est très bien que tout le monde. Un masque, tout le monde a un faux self, tout le monde essaie d'être poli, d'être gentil, d'être correct, d'être.
Pas tout le monde.
Par exemple, la taille de la chance, la vérité, c'est toujours un peu le même. Il y a des conventions, il y a de la conformité, et finalement un consensus mou, si je puis dire, qui est non vivant. Alors moi je dis, exprimons-nous, aimons-nous les uns les autres, comme disait l'autre.
D'accord, je suis d'accord. Jean-Marie, j'ai pas fini ce que je voulais dire tout à l'heure. Tu disais le bout de la voix, ce serait quoi ? Je n'en sais rien. Mais ce que je vois depuis ici, c'est qu'il y a compréhension, vision, réalisation. Hein, je disais. Il y a quelqu'un qui a dit, malheureusement j'ai oublié qui, avant l'éveil, on est sur la voie vers la voie. Après l'éveil, on est sur la voie. Ça veut clairement dire que ce n'est pas fini. Et quand on écoute la plupart des gens aujourd'hui, Ramana Maharshi le disait aussi, l'éveil, c'est pas à la fin. C'est, hein, il parlait du bateau dont on arrête le moteur et qui continue sur son air. C'est-à-dire qu'il se passe encore une chose après. Pour moi, l'éveil, c'est le premier éveil, entre guillemets, mais tout peut arriver dans tous les sens, hein, on y reviendra, c'est réaliser qu'il n'y a pas de moi. C'est le plus facile à réaliser parce qu'il y a tout un côté simplement regarder suffit pour voir qu'on n'en a jamais vu un de moi, quoi, hein. Et ce premier éveil offre l'opportunité de la fin de toute souffrance. Souffrance, hein, je dis bien. Ça veut dire que c'est pas la fin de toute souffrance. Il peut encore arriver des tonnes de choses, puisque l'ego ne s'effondre pas avec l'éveil complètement. Mais par contre, il est tellement beaucoup plus facile de voir tout ce qui apparaît de l'ordre de l'ego, à mesure que ça apparaît, dès que ça dérange un tant soit peu, le regard se pose dessus et ça disparaît, ça s'effondre. En ce sens-là, c'est l'opportunité de la fin de la souffrance. Et pour moi, c'est une première étape, entre guillemets, mais ce n'est pas forcément comme ça. Il y en a qui, tout de suite, s'éveillent à la deuxième réalité, on va dire, et puis d'autres, ils n'y arrivent jamais, et c'est un grand mystère, et c'est comme ça, et j'en sais rien, pourquoi, comment, enfin, ne faites pas de ce que je dis une loi, et ne l'inscrivez pas dans le temps, parce que de toute façon, le temps est aussi une illusion. Le deuxième éveil, entre guillemets, si je dois mettre des choses là, des mots là-dessus, c'est de réaliser que tout cela, tout ce qui apparaît, n'est qu'une apparition, est une apparition. Tout ce qui peut être perçu est une apparition, une illusion, est illusoire. Et ça aussi, ça peut être compris, ça peut être vu, ça peut être réalisé. Et le second éveil, c'est quand c'est réalisé. Quand il est réalisé qu'en réalité, il n'y a rien là. C'est juste une apparition. C'est juste une apparence. En réalité, il n'y a rien, il ne s'est jamais rien passé. Jamais. Et ça, c'est pas la peine d'en parler, quoi.
Ce ne serait pas la croyance, alors, finalement, qui créerait les événements ?
C'est la croyance, ce sont des pensées crues. Pour moi, le monde, l'univers est une pensée crue. Tout ce qui est perçu est en réalité une pensée crue. On pourrait dire une apparition au sein de ce qui est. Mais spontané comme ça, ça apparaît.
Et même dans la vie d'un individu, est-ce que la pensée, comme la croyance, n'est pas indispensable à créer l'événement ? Parce que, imaginons, là, ça y est, vous réalisez qu'il n'y a pas de moi. Mais la personnalité continue à exister avec ses envies, ses désirs, ce qui nous permettrait en fait de s'épanouir par rapport à cette croyance quand même, puisque...
Non.
Je ne sais pas, mais vous aimez par exemple, je ne sais pas, le sport ou la musique, c'est aussi en fonction de la manière dont vous êtes construit.
Oui.
Parce qu'à un moment donné dans votre vie, si votre ami n'était pas musicien, vous allez rencontrer quelqu'un qui fait de la musique ou quelqu'un qui fait du sport, voilà, bon. C'est aussi votre parcours de vie qui fait que...
Oui, la personnalité continue et vivante. Voilà,
mais la personnalité,
pas de chose
elle est un petit peu liée aux croyances, quand même. Ça paraît difficile de pas se construire à travers...
Peut-être en partie, aux croyances, je ne sais pas, aux expériences en tout cas.
Aux expériences.
Aux rencontres, etc.
Et dans les choix de vie qu'on fait, alors est-ce que les événements peuvent exister sans la pensée? C'est-à-dire que
oui.
Quoi qu'il advienne, le même événement va exister que la pensée soit là ou pas. C'est-à-dire que
non, si ça pas forcément. Ça pas forcément, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, la vie peut très bien se dérouler sans aucune croyance, sans aucune pensée.
D'accord, oui. Vous êtes obligé de faire des choix parfois quand même.
Non, ils se font.
Ils se font.
Ah oui, alors là...
Avant la réalisation, il se faisait avec la pensée ou il se faisait de toute manière que la pensée il était là ou pas.
Il y a longtemps en arrière, je pouvais me torturer longtemps, et puis tout d'un coup, ça choisissait, ça faisait un choix. C'est pas, c'est, Mais pareil, regardez pour vous-même. Regardez les choix. Par exemple, vous êtes venu ce soir. Pourquoi est-ce que vous êtes venu ce soir? Comment ça s'est fait, le choix? Est-ce que vous avez vraiment choisi? Ou est-ce qu'il y a des choses qui se sont, entre guillemets, imposées à vous? Pas vraiment imposées, mais ça s'est fait. Quelqu'un vous en a parlé. Ou bien, vous ne saviez pas si vous allez venir, plutôt d'un coup, vous êtes venu. Ou je ne sais pas, moi, comment ça s'est fait. Mais regardez de près, vous allez voir que vous n'avez pas réellement choisi. Et même quand vous pensez avoir réellement choisi, si vous regardez les causes du choix, vous verrez que ces causes sont conditionnées. Que donc, elles n'ont pas été choisies. Donc, il n'y a pas réellement de choix. Mais ça, ça a besoin d'être exploré, d'être vu. Ne me croyez pas sur parole. Ne croyez rien de ce que je dis sur parole.
C'est une distinction entre la personnalité et l'ego.
Oui.
Parce qu'on garde la personnalité. Mais cette personnalité, c'est de l'ego aussi. C'est pas très clair, ça. Parce que
je définirais l'ego comme tout ce qui est lié à des histoires, à des pensées crues, à des histoires liées à la pensée moi. C'est-à-dire, si j'ai une pensée moi crue, si je crois qu'il y a un moi, je peux me sentir responsable ou coupable de ce qui se passe. C'est moi qui l'ai fait. Il y a une attribution de certains événements, de certains actes, de certaines pensées. C'est ça que je définirais comme l'ego. C'est à moi que c'est arrivé. Ça, c'est l'ego.
Est-ce que c'est une personnalité qui est toute notre histoire expérimentale, je veux dire?
Mais là, c'est l'expérience. Elle s'est construite avec les expériences.
Ça s'est complètement entremêlé avec l'ego.
Oui, ça s'est entremêlé. Ça s'est entremêlé. Mais je ne prétends pas savoir clairement faire la différence entre les deux. Ce que je sais, c'est que la personnalité demeure, en ce sens que je continue à adorer les bains de mer, par exemple. Il n'y a aucun doute là-dessus. À aimer les bains de mer, par exemple. Ça, j'ai autant de plaisir à me baigner en mer qu'autrefois. Ça n'a vraiment pas changé. Il y a des choses comme ça qui demeurent. Depuis que je suis petit, quand j'étais à l'école primaire, on me disait d'aider ceux qui avaient des difficultés. Et depuis, l'enseignement, je veux dire, a toujours fait partie de ma vie. Le partage de ce que je sais, dans tous les domaines, a toujours fait partie de ma vie. Ça continue. Bien sûr que c'est en partie conditionné. Mon père était prof. Par exemple, on peut aller chercher plein de choses. Alors, bien sûr qu'il y a un conditionnement. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont liées à l'histoire de cet organisme. Puis il y a des choses qui sont liées aux gènes. Mais j'en fais pas une histoire. C'est-à-dire que c'est pas moi qui viens partager ici ce soir. J'ai pas l'idée d'un moi qui fait quoi que ce soit. Il n'y a pas l'idée que c'est mieux qu'autre chose. Ça en fait rien, ça partage. Ça s'est pas fait autrement, j'ai envie de dire.
Si c'était l'intelligence infinie qui nous dirigeait...
Oui, on peut redire ça comme ça, tout à fait.
Simplement pour ce qu'on peut.
Nous utiliser.
Ça arrive. On va perdre des mots puisque vous ne savez pas pourquoi vous continuez ceci ou cela.
Ça arrive. Mais il n'y a pas de question, ça se passe.
Pour aider, à la limite.
Non, il n'y a pas l'idée que ça aide. C'est trop.
Pas trop. La vie prend un
mais qui pourrait bien aider qui, puisqu'il n'y a pas de moi. J'ai pas l'idée d'une aide.
De rappeler simplement qui on est. De prendre les gens eux-mêmes.
Pour moi, c'est trop tout ça.
Mais c'est pas de la pensée positive.
C'est pas ouais. Je sais pas. Je savais pas trop dire. Il y a une propension à le faire. Et je sais pas comment c'est. Certains ils aiment les pommes et d'autres ils préfèrent les bananes. Et là, ça préfère partager. Et il y a plein de gens qui ont réalisé qu'il n'y avait pas de moi et qui ne partagent pas du tout ça, qui n'en parlent jamais. J'en connais plusieurs. Ils ne le partagent jamais. Et pourtant, c'est complètement vivant en eux. C'est des différences.
J'ai l'impression que ce qui doit disparaître, c'est le regard, c'est la conscience qu'on peut avoir du regard des autres. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde soi-même et on ne se sent plus regardé. Non, j'ai l'impression qu'à un moment donné, on est en temps d'observation de tout, quoi. Et on n'est plus dans un positionnement, voilà, où j'existe, où je me situe, par rapport à qui, et d'une manière ou d'une autre.
Ah, c'est sûr, je ne me pose pas la question de savoir qu'est-ce que les gens vont penser de moi et comment ça va être. Non pas que je sois pas forcément, non pas que je sois toujours insensible, mais c'est pas une préoccupation, si c'est ça que tu veux dire. C'est tranquille.
Bah ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression d'un allègement, d'un dépouillement, la vie se fait.
Oui, mais elle s'est toujours faite.
Elle s'est toujours faite. Là où l'allègement, ça n'a plus le commentaire mental qui peut être là.
Il peut être là, mais c'est pas grave.
Oui, mais c'est ça. C'est plus considéré comme un obstacle.
Oui. Vous avez levé la main tout à
l'heure.
Maître
Degen.
Degen, qui a dit quoi?
Sur la voie.
Ah oui? Ah merci. Ah oui, bah, si tu pouvais me retrouver la référence, je veux bien, parce que j'aime beaucoup cette phrase. Moi, c'est, aujourd'hui, c'est clair. Avant,
c'est
ouais, je trouve ça intéressant. Moi. Avant l'éveil, on est sur la voie vers la voie. Après l'éveil, on est sur la voie. Merci, bonne soirée.
Merci.